l'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Nous sommes à présent avec Fabien Esteliano, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves de la Sarthe. Bonjour.
Bonjour, vice-président je suis.
Vice-président, pardon. Alors on rappelle la situation, donc le mois de juin vient de s'achever et les derniers délais de réponse aux propositions d'admission Parcoursup sont encore en cours jusqu'au 10 juillet, ce qui clôturera une période qu'on imagine particulièrement stressante pour les lycéens. En effet, l'angoisse de ne pas être admis dans la formation souhaitée concerne beaucoup d'élèves, d'autant que le fonctionnement de Parcoursup est assez obscur. Marietta Caramanli, la députée socialiste et apparentée de la deuxième circonscription de la Sarthe, a adressé une question à Philippe Baptiste, ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle souhaite savoir quelle réforme le gouvernement entend mener sur Parcoursup. Pour Marietta Caramanli, le dispositif d'accès aux études post-bac tel qu'il est aujourd'hui biaisé et inégalitaire. Alors on va voir un peu tout ça avec vous Fabien Esteliano, puisque vous êtes au contact des parents d'élèves et votre présence va nous permettre de mieux comprendre la situation que vivent ces parents et les élèves face à Parcoursup et que dénonce la députée dans son courrier. Alors en fait, quand on interroge les étudiants sur leur expérience de Parcoursup, ce qui ressort, c'est d'une part l'opacité de Parcoursup et son fonctionnement qui semble ne pas relever finalement de décisions humaines pour ce qui est du recrutement des étudiants. Un professeur d'université m'a également décrit son rôle dans la sélection des dossiers, ou plutôt son absence de rôle, puisqu'il ne fait que donner ses critères de sélection à la machine qui ensuite se charge elle-même de faire la sélection. Alors, est-ce que cette prépondérance de l'algorithme, elle vous étonne, Fabien Esteliano ?
Alors non, on le voit assez souvent. En réalité, il y a deux dispositifs très différents en fonction des établissements scolaires. Les classes prépa, certains BTS en général, ont plus d'humains qui travaillent sur les sélections. Et c'est vrai que dans plein de dispositifs, dont l'université, mais il y a aussi d'autres dispositifs d'école, où là le caractère humain semble vraiment peu présent. J'entendais encore il y a quelques semaines un étudiant raconter, vous savez, TikTok et X et tous les réseaux sociaux en parlent, qui disait que voilà, évidemment il met une recette dans le courrier et il obtient comme souhait malgré tout ce vœu-là. Donc on imagine bien que les humains n'ont pas travaillé là-dessus.
C'est vrai que dans ce cas, on se demande où est l'utilité d'écrire une lettre de motivation, effectivement. Cependant, est-ce que cela constitue forcément un problème en soi, que ce soit la machine qui sélectionne les dossiers, puisque ceux-ci sont conditionnés par des critères qui ont tout de même été déterminés par l'homme ? Quelle problématique est-ce que vous y voyez, au fond ?
Dans la réalité, c'est que l'humain a une capacité aussi à voir les choses avec d'autres critères et puis à rééquilibrer les choses. Je crois qu'il y a le critère, par exemple, de la démocratisation, il n'est pas extrêmement bien utilisé aujourd'hui sur Parcoursup. Et ça, l'humain peut de temps en temps jouer là-dessus pour réfléchir à comment permettre des places pour tous en fonction des parcours, parfois qui sont très divers. Et un algorithme, ça reste des données numéraires et numériques, et donc du coup, parfois des données qui ne sont pas facilement applicables à tous.
Alors pour illustrer un peu ce que nous racontons, je vous propose d'écouter un court reportage que j'ai pu effectuer à l'université Paul Valéry à Montpellier. On va pouvoir entendre les reportages que je relayais tout à l'heure.
Yeux au ciel, grimaces, sourires ironiques, à l'université Paul Valéry, les visages des étudiants parlent d'eux-mêmes à la mention de Parcoursup.
Parcoursup, c'était une grosse galère.
Unanime, les étudiants se rappellent de l'attente et de l'incompréhension. La sélection leur semble aléatoire.
Tu fais le vœu et puis voilà.
Ça a été assez stressant parce qu'on a beaucoup d'attentes par rapport au résultat.
L'expression un peu résignée, Sylvain Cormac, professeur, témoigne qu'à cette étape, seule la machine dispose encore des commandes.
Nous, on n'intervient pas sur la sélection des dossiers déposés par les candidats. Nous, on nous demande en amont de donner les critères qui vont être utilisés par la machine pour sélectionner les dossiers déposés par les candidats.
Cette place prépondérante de l'algorithme n'est pas une évidence pour les étudiants. Marise et Lucas soupçonnent l'algorithme d'être faillible et donc injuste.
Ben oui, c'est choquant.
C'est chaud en vrai.
Oui, c'est choquant. On ne te prend pas pour des notes ou quoi. On te prend comme ça au pif. En gros, c'est un jeu d'hasard.
Nous laissons les deux étudiants retourner à leur discussion sur le banc devant l'atrium. Ils changent au plus vite de sujet de conversation.
Voilà, donc des témoignages recueillis à l'université Paul Valéry de Toulouse. On rappelle que Parcoursup a été créé pour remplacer le site Admission Post-Bac, auquel on reprochait notamment un manque de transparence quant aux critères de sélection des établissements, des délais parfois très courts entre la proposition d'admission et l'obligation de répondre, qui mettait donc beaucoup de pression sur les élèves et leurs familles, et le tirage au sort pour certaines filières en tension, comme le droit ou la médecine, faisant du hasard un déterminant majeur dans le choix des études supérieures. Alors, selon vous, Fabien Estelliano, est-ce que Parcoursup est parvenu à pallier ces trois points, ou ne serait-ce qu'un seul de ces trois points, l'opacité, les délais trop courts ou le hasard ?
Alors sur l'opacité, on sent bien que tout le monde est d'accord pour dire que non, ça n'a pas solutionné les choses. Sur la longueur de la procédure ou le caractère court, il y a des moments où vraiment c'est très stressant et il faut absolument valider très très rapidement. Et puis du coup sur la rapidité, on peut aussi parler du fait qu'aujourd'hui Parcoursup a un gros problème, c'est que c'est une des critiques qui existe, c'est que c'est un processus long justement. Et ça démarre dès le mois de décembre où nos enfants regardent un peu ce qui s'y passe. En janvier, il y a l'ouverture du site. Et ensuite, trois mois avant d'intégrer pleinement. Et enfin, deux mois d'attente. Donc ça peut être très long. Puis après, dans les résultats, les enfants obtiennent les résultats assez tardivement. Ça commence où il y a un tiers, une moitié qui ont des propositions valables, et puis qu'ils vont valider assez vite, et puis il y en a plein aussi qui attendent beaucoup, hein. C'est très difficile et c'est très stressant.
Et donc un autre point de la question, Marietta Caramanli dans son courrier au ministre relève que ce fonctionnement de Parcoursup conjoint au budget insuffisant des universités qui peuvent donc moins prendre d'étudiants, donc ce fonctionnement a tendance à bénéficier aux établissements d'enseignement privés, selon la députée. Inscrire son ado dans le privé par manque d'admission sur Parcoursup, c'est un choix que vous avez pu constater chez les parents d'élèves, Fabien Estelliano?
C'est évident, hein, parce que l'idée, enfin les chiffres sont clairs, hein. Je crois que je lisais cette année, je ne sais plus si c'était la DEP ou un rapport du Sénat qui nous montrait, je crois que c'est les établissements privés de ce degré-là sont à 18% d'augmentation dans les offres. Donc c'est dangereux, parce qu'aujourd'hui, on préfère valider quelque chose parce qu'on sait qu'on va le payer et on sait qu'on l'aura, plutôt que de se dire allez, on joue le Parcoursup. Et ça, c'est pas une réponse très positive à ce qui se passait précédemment. APB finalement n'ouvrait pas autant de portes dans un privé, parfois occulte, hein, parce que c'est pas le privé, pas obligatoirement le diable, mais il faut faire attention ici. On a beaucoup d'établissements privés qui ouvrent et qui ferment, qui ouvrent des formations et qui les ferment au moment de la rentrée, parce qu'ils peuvent pas maintenir la réalité des choses. Donc c'est des ascenseurs émotionnels et des ascenseurs de vie qui sont extrêmement dangereux pour les jeunes.
Et du coup, est-ce qu'il y a des besoins concrets qui ressortent dans ce que vous entendez des élèves et de leurs parents?
Ah, il faut qu'on ait peut-être un Parcoursup qui ait lieu sur des formats et des délais différents. Ça, c'est vraiment une chose qui transparaît très souvent, parce qu'on se dit pourquoi ça tombe au moment des examens, pourquoi ça tombe à ce moment-là. On critique aussi le fait qu'on puisse ou pas aller voir les appartements pour mettre son enfant dans l'établissement, enfin dans le lieu de l'établissement à venir. Donc ça aussi, c'est des choses assez inquiétantes, parce que c'est un timing qui est parfois un petit peu dérangeant. Et donc il y a plein de choses comme cela, et le stress. Vraiment là, si le retour il est vraiment à 100% de la part des jeunes comme de leurs parents, c'est vraiment sur la question du stress. Ils sont stressés très rapidement.
Et donc Marietta Caramanli demande à savoir quelles mesures concrètes le gouvernement entend prendre sur cette question de Parcoursup. Est-ce que vous attendez aussi ces mesures ?
Bien sûr, on pense depuis le début de Parcoursup qu'on ne souhaite pas de tri, on ne souhaite pas de sélection aveugle. On souhaite, c'est pas pour rien que depuis la création du dispositif Parcoursup, on a eu la CNIL qui a travaillé dessus, donc pour le droit, hein, pour les questions de droit à l'image, de droit aux informations personnelles. On a eu des travaux sur de la Cour des comptes, donc on voit bien aussi que ça touche à à nos économies nationales. Le défenseur des droits a travaillé dessus, donc on voit bien qu'il y a des problèmes de droit sur ces questions-là. Le Sénat a travaillé dessus encore l'an dernier. Donc on a vraiment un panel de propositions qui existent, qui ont été déjà formulées par beaucoup d'acteurs. Et nous, évidemment, à la FCPE, on a demandé à ce qu'il y ait un accompagnement qui soit beaucoup plus égalitaire aussi, parce que l'accompagnement aujourd'hui se fait pas de manière linéaire, d'un établissement à l'autre, c'est pas la même chose. On demande à ce qu'il y ait moins de stress, on demande à ce que on puisse mieux démocratiser les offres de formation, parce que là aujourd'hui, en plus d'être occulte, on voit bien que ça retranscrit on dit souvent voilà que c'est une fabrique à élite. On sent bien que les universités n'ayant plus d'argent, elles ne font pas partie de ce parcours-là. Et puis enfin, si j'ai une dernière chose à dire, en BTS par exemple, les parents nous disent qu'ils ont vu des formations où précédemment on commençait à 35 et on finissait à 30, et aujourd'hui on commence à 35 et on finit à 22. Pourquoi ? Parce que beaucoup d'étudiants quittent, parce que justement le dispositif n'est pas obligatoirement le mieux organisé possible, donc parfois on y va par peur de ne pas avoir autre chose comme proposition.
Il y a des choix par défaut qui sont. Eh ben, je vous remercie Fabien Esteliano, président de la FCPE, vice-président de la FCPE 72. Merci d'avoir pu apporter ces éclaircissements sur les éléments qu'a apporté Marietta Caramanli à propos de Parcoursup et de son courrier adressé au ministre délégué chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci beaucoup.
Merci.
L'invité de la rédaction avec Charlie Pless sur Radio Alpa.